Bonjour et bienvenue dans un cyberculture sur les enfants. Le multimédia, la micro, internet, les jeux vidéo, pour l'instant ça ne concerne pas tout le monde. Il y a encore deux inégalités, celle de l'argent et celle de l'âge.
Non, mes parents ne jouent pas.
Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'effet de génération.
Si on aime, on aime. C'est pour tous.
Et tout de suite, le sommaire.
La panoplie, c'est le premier sujet.
On va commencer par regarder ce qui se passe du côté du cyber et de l'éducation. Les logiciels éducatifs, c'est un secteur en pleine expansion, qui représente déjà le deuxième marché, juste après les jeux vidéo. Les logiciels, quand ils vous prennent dès le berceau, ils ne vous lâchent plus.
J'adore. Deuxième sujet, ça change la tête.
Et puis, comme les micros, les jeux, ça existe depuis longtemps, on va se demander ce que ça change dans la tête.
On a l'impression d'être fort.
La génération Nintendo, la génération Encarta, pensera-t-elle différemment de ses parents, la génération Rock et Pilule ?
Ça, je sais pas du tout.
Troisième sujet, une génération.
Et enfin, pour terminer, on va essayer de définir cette génération cyber.
Et j'étais pas encore née. Mon père, il joue encore à Sega.
Fin du sommaire.
Ça fait 15 ans qu'on nous dit que l'économie de la France, de l'Europe, du monde entier dépend de l'éducation.
J'aimerais bien être médecin ou vétérinaire.
Ici, on a voulu 80% de réussite au bac et on a réussi.
À part Sandra.
Mais ce qu'il ne faudrait pas faire plus, mettre des PC dans toutes les écoles pour tous les élèves, par exemple. Dans la compétition internationale, la faculté de recevoir un vrai enseignement est primordiale.
Je travaillerai sûrement sur un ordinateur.
L'école est-elle en retard par rapport aux technologies numériques ?
La panoplie.
Du berceau au bac, toute une panoplie de logiciels, de matériel et de réseaux propose désormais de prendre en charge l'éducation des enfants. Les jeux d'éveil ont remplacé les fées d'autrefois, penchés sur les berceaux. Tu feras tes premiers dessins avec moi, dit l'un. Si tu explores mes paysages, dit un autre, tu découvriras des dizaines d'activités. Ainsi sont nés les environnements, images interactives qui donnent accès à des jeux éducatifs.
À 2-3 ans, à partir du moment où l'enfant sait utiliser la souris, comprend que lorsqu'il déplace la souris, ce déplacement correspond à un déplacement au niveau de l'écran, il peut utiliser un logiciel.
Dans le genre, la star incontestée est Adibou. Clique sur le canard et il se met à rire. Si tu t'es bien amusé, alors va dans la maison faire un peu de logique et découvrir la lecture.
Youpi !
Voilà ce qui fait le succès pour les parents. Un astucieux mélange d'activités éducatives et de loisirs. Les Américains l'appellent edutainment, ludo-éducatif en français. L'art de captiver l'enfant tout en stimulant ses facultés. Mais la vraie magie enfantine se niche dans les contes et les Charles Perrault du virtuel ne manquent pas.
Lulu !
Soit ils écrivent des histoires aux illustrations changeantes quand on les clique, comme Lulu, délicieux mélange d'autrefois et de futur. Ou Kieko, chaleureuse comme la voix de Pierre Tchernia.
Au village, tous étaient réunis pour accueillir la nuit qui devait leur apporter la fraîcheur et le repos.
Soit ils invitent à imiter le conteur et donnent les moyens d'inventer une histoire selon un modèle. Perdu dans ses rêves, l'enfant ne se voit pas grandir, mais les éditeurs ne le lâchent plus. Voici le temps des premières encyclopédies. La vie des bêtes ou celle du corps humain, l'espace ou le fond des océans sont numérisés avec amour pour nourrir les petites cervelles curieuses.
On va avoir même une encyclopédie sur l'ordinateur et c'est plus enrichi.
Au pays cyber, on grandit vite. On apprend même l'anglais dès 5 ou 6 ans.
Night hadn't fallen for a very long time.
L'école entre en scène multimédia. Les programmes sont ouvertement baptisés cours préparatoires, CE puis CM. Les matières présentées ont les noms grimaçants des sorcières d'autrefois, grammaire ou géométrie. Seule compensation, certains jeux sont édités en version enfantine, comme Sintown ou Carmen Sandiego Jr. En France, on ne mélange pas discipline et amusement. Parfois, un gentil programme transpose la logique en situation amusante ou ravive les fables de La Fontaine d'un vernis interactif. Un traitement de texte aide avec fantaisie à la rédaction de toutes sortes de documents. Il est américain.
Mes professeurs aiment mieux aussi quand c'est tapé. En plus, ça corrige automatiquement.
De fait, plus on grandit, plus l'offre se spécialise. Les aides scolaires se multiplient, les éditeurs pour collégiens comme Magnard, Vuibert ou Bordas se lancent dans la production. Les Allemands dédient à leurs adolescents des CD-ROM spécifiques, alors qu'en France, il faut choisir entre l'école pure et dure ou la guitare par exemple. Travail et loisirs se côtoient mal dans les mentalités.
Ce qui marche le mieux, c'est les produits pour les plus jeunes en fait. Donc pour les, je dirais, 4
ans, 6 ans, 7 ans. C'est les produits que les jeunes parents, qui ont une trentaine d'années, qui sont déjà des habitués de la micro ou qui sont sur ce marché depuis un certain temps, achètent pour leurs gosses en espérant que ça va les intéresser.
Les MAT font l'objet d'une assistance à domicile austère mais bienveillante comme assistance scolaire qui regroupe tous les exercices de tous les manuels du collège en maths et en français. Et le baccalauréat a trouvé un adversaire au nom explicite, Bac Killer.
C'est un outil en plus, c'est un apport en clarté, en facilité de travail, voire même en rapidité. Mais si on n'a pas envie de travailler, c'est pas le CD qui va faire travailler.
Reste que celui qui a tôt fréquenté ces programmes arrive à la fac avec une culture générale sûrement plus ouverte et plus sûre que celle des lecteurs de tout l'univers, pourtant d'excellente qualité.
Sur le marché français, aujourd'hui, des titres en langue française, il doit y avoir à peu près une centaine de produits pour les moins de 10 ans. Et au global, si on intègre les méthodes de langue et les produits de formation parascolaire pour adultes, on doit être à 400 références ou 500 titres à peu près maximum, ce qui est déjà pas mal.
On peut donc tout apprendre avec l'offre éditoriale. L'école s'en rend-elle compte ?
Il y a 80 000 établissements et on considère qu'il y a à peu près un demi-million d'ordinateurs qui sont répartis dans ces établissements à l'intérieur de l'éducation nationale. Mais ils sont répartis très inégalement. Très inégalement parce que les chefs d'établissement, il faut le dire, sont très inégalement convaincant auprès de ceux qui peuvent leur apporter l'argent, c'est-à-dire les départements, les régions et puis les municipalités. Ils servent beaucoup à l'administration, malheureusement, et on considère qu'il y a à peu près 100 000 ordinateurs aujourd'hui dans les établissements français qui sont équipés de lecteurs de CD-ROM. Ceux qui sont les mieux équipés, ce sont les établissements qui se trouvent dans des zones riches, dans des zones où les élèves sont particulièrement bien équipés chez eux, et dans les petites classes rurales où véritablement là les instituteurs sont souvent des fans de télévision ou d'informatique et qui ont pris l'habitude depuis longtemps de l'utiliser dans leur salle de classe parce que ça rythme leur salle de classe, parce que souvent ce sont des classes uniques et que dans les classes uniques, c'est-à-dire les classes où on a toutes les catégories d'âge jusqu'à l'entrée en sixième, l'instituteur a besoin évidemment de se faire seconder par des équipements.
Pourquoi plus d'écoles équipées dans les campagnes ? Un maire de petite commune accepte plus facilement de fournir à son école un ou deux PC, alors que dans une ville, il faudrait investir de quoi acheter 100 ou 200 machines. C'est donc une question de budget. Mais pas seulement. La résistance est dans les têtes depuis 10 ans. Depuis le plan informatique pour tous.
L'erreur, par conséquent, en 85, avait été de faire un acte perçu comme une espèce d'agression. On a vu les ordinateurs arriver dans les salles de classe, à un moment où l'ordinateur, il faut le dire, n'était pas encore entré dans les mœurs comme aujourd'hui, et donc les enseignants se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et ils se sont dit, c'est encore une fois comme la télévision dans les années 60, c'est-à-dire qu'on va nous remplacer par des machines.
On peut nuancer, quiconque a tenté d'utiliser un nano-réseau de TO7 n'a sûrement pas craint d'être remplacé. En revanche, l'allergie à l'informatique explique plus sûrement la résistance actuelle de certains enseignants autrefois curieux. Comme on l'a vu, l'essentiel de la cyberculture se découvre à la maison. L'école n'a-t-elle pas un rôle à jouer pour compenser ces différences naissantes ?
Il y a une grosse, grosse différence entre les suréquipés et puis tous les autres. Et c'est là que véritablement l'école a un rôle à jouer, c'est qu'elle doit mettre à la disposition de tout le monde, par définition, des équipements que tout le monde n'a pas chez soi. Il y a ceux qui ont des équipements chez eux et qui poussent leurs profs à les utiliser, et il y a ceux qui ne les ont pas chez eux et qui ne poussent pas leurs profs à les utiliser.
À quand les cyber-épreuves du bac ? Avec maîtrise du traitement de textes obligatoires et options tableurs pour les scientifiques ? Dommage que ça ne soit pas pour dans 2 mois. Comme Disney, Mattel ou McDonald's, sur leurs créneaux respectifs, les champions de l'informatique et du logiciel de loisirs n'ont pas oublié de faire du business grâce aux enfants. Un constructeur, Apple, doit sa réussite à sa présence dans l'éducation. Ce créneau représente un cinquième de ses ventes dans le monde entier, c'est-à-dire quand même plus de 10 milliards de francs l'an dernier. Du coup, les concurrents montrent leurs dents et Compact, numéro 1 mondial du PC depuis 2 ans, s'attaque sérieusement à un fromage appelé à beaucoup s'épaissir. Une alliance avec Fisher-Price traduit cette orientation qui, pour Noël prochain, lance une gamme de nouveaux produits. Mais plus qu'une niche de luxe pour constructeurs d'ordinateurs, l'éducation est aujourd'hui le créneau où l'industrie du logiciel enregistre ses plus beaux taux de croissance. Les éditeurs d'encyclopédies sortent tous leurs CD-ROM. Même Microsoft se lance à fond dans ce secteur avec sa gamme Microsoft Home. Résultat, les titres éducatifs scientifique culturel représente désormais plus du tiers du marché des logiciels de loisirs sur micro. C'est derrière les traditionnels jeux vidéo le deuxième plus gros créneau. Selon le spécialiste, les éducatifs représentent plus de 5 milliards de francs dans le monde, mais encore nettement moins de 300 millions de francs en France.
Une bonne vente atteint les 5000 exemplaires. Au-delà, c'est une vente exceptionnelle. Je pars sur le marché français, donc c'est encore tout petit. Hein.
Et maintenant, en plus des micros et des logiciels, il y a Internet. Entre les sites spécifiques de soutien scolaire comme Idéclic et les cybergarderies, il y a tout Internet dans son entier qui peut servir à faire ses devoirs. De quoi garantir de belles années de croissance. Avec les logiciels, les micros qui sont déjà en place et Internet qui débarque, l'éducation a toutes les chances d'entrer dans son ère cyber.
Vous vous rendez compte de tout le nouveau matériel éducatif dont on dispose, entre les logiciels, les encyclopédies et Internet.
C'est pour tout le monde.
La question, c'est pas de trouver ça bien ou pas bien. C'est comme ça, c'est là et ça change la vie.
Parce que quand on écrit à la main, c'est plus fatigant.
La calculatrice fait disparaître le calcul mental. Les jeux vidéo font chuter l'audience de la télé, les histoires deviennent interactives et Internet vous rapproche plus d'un copain au bout du monde que de votre voisin au bout du palier.
Les amis, c'est plutôt moi qui joue avec eux, plutôt que eux qui jouent avec moi.
Voici les effets du cyber sur les comportements et les esprits.
Ça change la tête.
Les enfants passent de plus en plus de temps dans le monde cyber et ça fait 20 ans que ça dure. Mais qu'est-ce que ça change dans leur tête? Le premier changement, c'est l'arrivée de nouvelles stars. Chez les enfants, Mario est plus populaire que Mickey. Patrick Longuet a réalisé une étude sur les enfants et les jeux vidéo.
Il est probable que dans la mémoire, c'est-à-dire... Parce qu'un héros, c'est quelque chose qui figure dans la nostalgie. On se rappelle tel héros, comme on regarde aujourd'hui Rintintin. Il est probable que Mario ou que Zelda... un certain nombre de personnages comme ça restent durablement dans les mémoires, de sorte que ceux qui les retrouveront dans 10 ans se disent « Eh oui, c'était ça mon enfance ». Les enfants d'aujourd'hui auront eu à Mario un rapport assez différent de celui qu'on a pu avoir à Mickey, parce que Mickey, on a été séduit par ses aventures à lui. Mario, on a été séduit par nous jouant avec lui. Donc peut-être qu'il y a une petite différence affective de l'ordre de la mémoire qu'on aurait d'un copain, une sorte de copain, ce sera un premier copain virtuel en quelque sorte.
Donc des héros différents et plus proches. Les enfants d'aujourd'hui auront des souvenirs bien à eux. Ça fait plusieurs années que cette génération utilise des micros à la maison pour jouer. Mais le micro est devenu l'outil numéro un des entreprises. Donc quand on joue, on apprend à travailler?
Avec les jeux vidéo, j'ai travaillé mon anglais. Parce qu'à 12-13 ans, je passais des heures aux jeux d'aventure qui étaient tous en anglais. Donc il fallait aller chercher dans le dico pour choper les mots et puis avancer dans l'énigme. On évoluait dans des labyrinthes assez complexes. Donc il fallait bien avoir en tête pour éviter les monstres. Donc ça, je pense que ça développe un peu le sens de l'orientation. Et en jouant aux jeux de simulation de voiture ou d'avion, on développe peut-être un peu les réflexes. Dans le boulot, aujourd'hui, l'ordinateur, je passe au moins 6 ou 7 heures devant l'écran, pas constamment, mais j'utilise beaucoup l'ordinateur. Et le fait peut-être d'avoir utilisé l'ordinateur à travers des jeux vidéo ou de la programmation quand j'étais jeune, ça facilite sans doute le contact et le rapport avec l'interface d'un ordinateur.
Les programmes, les logiciels éducatifs et les jeux, certains jeux, il faut quand même limiter, sont sûrement des outils qui risquent de découvrir, de dénicher ces compétences et d'en faire des compétences supplémentaires pour l'individu.
Et dans l'enseignement, l'ordinateur commence aussi à faire évoluer les programmes scolaires.
La simulation d'un système, d'abord c'est une première. Il n'était pas possible de simuler un système avec un livre. C'est la meilleure manière, c'est peut-être même la seule, de comprendre un système.
Grâce à l'ordinateur, on peut enregistrer des phénomènes qu'on ne pouvait pas voir et sur lesquels on ne pouvait pas faire travailler les élèves avant que l'ordinateur n'existe. Par exemple, en travaux pratiques, il y avait une grande partie du temps qui était consacrée à ne serait-ce que tracer la courbe obtenue avec l'évolution d'un phénomène. Aujourd'hui, l'ordinateur trace la courbe. Et puis on peut modifier rapidement les paramètres qui influencent ce phénomène et faire plusieurs cours avec plusieurs paramètres différents et faire passer beaucoup plus de temps les élèves à étudier les résultats et donc tirer les conclusions, examiner les choses scientifiquement.
Tout ça prend du temps. En 85, 10 ans après l'invention des calculatrices, les programmes de maths n'avaient pas encore changé. Mais il y a un effet plus rapide, c'est que l'ordinateur semble être un outil d'intégration.
Dans les milieux immigrés maghrébins, parce que l'enquête qu'on a commencée est faite dans une zone d'éducation prioritaire, c'est une zone très défavorisée socialement et avec beaucoup de populations immigrées, on voit que les enfants maghrébins sont équipés en ordinateur, ce qui est quand même tout à fait étonnant, y compris dans des familles avec des revenus faibles, et que ces achats sont récents, et qu'ils sont dictés par l'idée que l'ordinateur va aider à apprendre à écrire, va aider à apprendre à apprendre le français, et c'est soutenu par les parents.
Le cyber, ça offre des héros différents, une préparation au travail, une facilité à l'intégration. Mais il y a encore des gens qui pensent que ça rend violent.
Les reproches qu'on fait aux jeux vidéo aujourd'hui, ou à Internet aujourd'hui, en fait, c'est des reproches qui ont toujours été adressés aux médias, et ce qu'on appelle les paniques morales chez les sociologues, c'est-à-dire une opinion publique qui se dresse et qui charge les médias comme bouc émissaire. Alors ça a été le cinéma dans les années 30, on trouvait exactement les mêmes choses, la violence, la concurrence avec l'écrit, l'identification jouée aux cow-boys, aux indiens, c'est né de là, c'était les westerns, simplement les parents étaient affolés, ils croyaient que les enfants confondaient la fiction des films et la réalité, etc. Puis après ça a été la radio, avant-guerre, et depuis la Seconde Guerre mondiale c'est la télévision. Bon, mais je crois que chaque époque génère sa propre panique sur un média qui est chargé de tous les maux sur la violence, l'éducation, les problèmes d'autorité de la famille, etc. On ne peut pas établir de causalité, on ne peut pas dire c'est parce qu'un enfant a joué à un jeu vidéo violent ou a regardé une émission violente à la télévision qu'il est passé à l'acte. C'est-à-dire, le passage à l'acte n'est pas possible à prouver. Le passage à la violence est généralement une forme d'impuissance face à des situations qu'on ne domine pas ou des situations d'humiliation. C'est souvent lié à des contextes, que ce soit familiaux ou dans l'entourage, dans des cadres de vie très difficiles où la violence est très présente dans la rue, dans les cités. Bon, il est pas, je pense que c'est surtout ça qui pousse un enfant à la violence.
Du coup, on voit bien que ça ne change rien par rapport à la violence. Le plus grand changement, il se fait au plus profond de soi, quand le micro devient un deuxième moi. Et avec l'ouverture sur les relations extérieures par les réseaux, on y passe de plus en plus de temps.
On définissait autrefois la gloire comme une augmentation d'être. Mais je dirais que l'ordinateur, de ce point de vue-là, glorifie celui qui s'en sert. Il lui augmente son être.
Ma vie numérique devient de plus en plus importante par rapport à ma vie réelle. Par exemple, mes amis vivent dans le monde entier et je les rencontre dans le cyberespace. Ce monde cyber prend de plus en plus de place dans ma vie sociale et bien évidemment dans ma vie professionnelle.
Alors, le cyber, ça change la tête? Oui, mais doucement. Les jeunes ne sont pas des moutons.
Au Japon, vu que la fréquence électrique est plus rapide, bon, les jeux sont plus rapides.
Vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, dès qu'on voyait un pré-ado tapoter du clavier et aligner trois lignes de code en basique, les parents criaient au génie.
J'étais content.
Depuis, le concept des petits génies à la Wargame, on a bien vu ce que ça donnait. Rien de plus qu'avant. Enfin quand même, ça donne des personnes capables de s'adapter au monde moderne, qui n'ont pas peur de taper des rapports dans Word, qui adorent dessiner des camemberts dans Excel et qui communiquent par email.
Le samedi, souvent le samedi.
Le multimédia, ça rend pas plus intelligent, ni plus drôle, ni plus sensible. Mais l'absence de multimédia, c'est un handicap pour la vie moderne.
Une génération.
Même si elle a des airs de tendance du moment, la culture cyber est une véritable culture populaire. Sa diversité, sa richesse et sa dimension internationale font qu'elle est là pour durer. Les mangas, les robots transformables, les films d'animation en 3D, les jeux vidéo et leurs produits dérivés sont devenus les piliers de l'industrie du loisir familial. Internet et l'ordinateur multimédia coûtent cher et n'en concernent encore que peu de gens. Mais l'ordinateur est devenu l'outil quotidien du travailleur occidental. Et les consoles de jeux, elles, sont présentes dans plus de 65% des foyers français avec un garçon. Les jeux vidéo deviennent le nouveau point commun de cette génération. 3, 2, 1. Nous sommes allés en banlieue, à Noisy-le-Grand, rencontrer Yacine, 15 ans, à la campagne, à Saint-Gervais, découvrir Jérôme, 11 ans, et son petit frère Olivier, 9 ans, et à Paris, dans le 6e, voir Florent, 12 ans.
Ma première console de jeux vidéo, c'était en 1989 ou en 1988, et c'était la Master System.
Quand j'avais 7 ans, c'était une Master System.
Il y a mon frère qui m'a soutiré mon argent, je devais avoir 5-6 ans. Il est parti acheter une Atari 2600 et depuis jour-là, bah...
Là, on a tous commencé à y jouer, mon frère y compris.
Mais la journée, la télé est prise, donc y a pas moyen.
Somme du temps, quand j'ai rien à faire, ça m'occupe.
J'ai atteint des sommets de 5 heures, quoi.
Et le week-end, ça peut aller de 1 heure à toute la nuit, quoi.
Toute une matinée, toute une après-midi, toute la journée, des fois.
Quand je gagne, je suis inexpressif.
Mon cœur, tout d'un coup, s'est mis à battre.
Pareil, c'est pour me détendre.
Ouais, ça nous endort vite aussi.
C'est bien, parfois, de se prendre la tête sur un jeu, mais pas trop souvent.
Puis tout d'un coup, hop, j'ai réussi. Alors là, tout le monde est impressionné.
C'est très bien, c'est sûr que ça fait bien travailler les cellules grises.
On est tous forts dans un jeu vidéo, pas de meilleur.
Souvent, comme je tombe sur des jeux que je connais, ouais, souvent je suis meilleur. This is my planet.
L'esthétique des jeux vidéo est reprise partout par les publicitaires, que ce soit pour les nouvelles Fiat, pour les baskets Reebok ou pour les pellicules photo Kodak.
C'est-à-dire qu'on peut aller dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est beaucoup mieux.
C'est le truc qu'on peut pas faire en vrai.
Des frappes de 40 mètres qui arrivent en pleine lucarne, des...
paniers de 4 mètres en sautant.
Des retournées acrobatiques.
Mais au foot, quand on joue en vrai...
Un bon de 16 mètres en l'air.
Et ben on se fait tout le temps crier dessus.
On se muscle les doigts d'abord. Sur une console, on fait pas les abdominaux, on a juste à bouger les bras et les mains.
Et aussi les personnalités, quoi. On va plus jouer avec son équipe favorite et tout ça.
Putain, tu vois, ça fait de l'art, ce jeu. Putain. Il a un esprit.
Les jeux vidéo échappent à la conception analogique du loisir des parents. Entre les jeux en bois du Jura et les ordinateurs éducatifs des tout-petits, il y a un fossé. Et c'est celui de la génération cyber.
Allez, on va dire 80% de la classe a une console de jeu.
On s'échange entre potes, comme ça, avec des jeux.
Avec des copains qui habitent au parking en face. Parce que nos deux cerveaux assemblés font un énorme cerveau. Puis ça se fait.
Sur des jeux de combat, comme ça, on se fait passer la manette.
Ouais, je dispute souvent pour la manette. Il y a certains de mes copains qui viennent chez moi que pour jouer aux jeux vidéo. Je pense qu'on connaît pratiquement tout le jeu avec tous les codes, toutes les prises.
Et d'habitude, j'arrive à les finir. Il suffit un peu de volonté, c'est bon.
La presse jeune parlait jusqu'ici des peines de cœur des stars pour les jeunes filles, de moto et de rock pour les garçons. Aujourd'hui, toute une nouvelle presse a fleuri, parlant de manga, de jeux vidéo ou d'informatique. Et l'avalanche de titres est impressionnante. Les questions qui taraudent les pré-ados ne sont plus « Est-ce que Johnny va quitter Sylvie ?» mais « Est-ce que mes 8 mégas de RAM sont compatibles au Windows 95 ?»
Quand ça atteint les 5 heures, ils disent qu'il faut que j'arrête un peu.
Non, je joue pas avec mes parents.
Quand c'est trop grave, on confisque la manette pendant 2 semaines.
Ils le prennent très mal, ça.
Ouais, une fois
c'est bien un mois.
Sinon, ils ne s'arrêtent pas.
Parce qu'après, je vais complètement être abruti.
C'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à l'information, c'est une ouverture à l'extérieur, mais à travers un écran.
Les micros à l'école, c'est traitement de texte. C'est on tape bonjour nanani nanana.
Quand on sortait de l'école aussi, on parlait souvent des jeux.
Ce qui serait bien éventuellement, c'est qu'ils mettent un service internet, des trucs comme ça.
Comme game over, je savais pas ce que ça veut dire. Et c'est que en sixième que j'ai compris que ça veut dire le jeu est fini. Sauf qu'il a du travail à faire, on n'y joue pas. Chacun va chez soi.
Les profs, quand on leur dit tu connais Doom sur PC, ils connaissent pas.
Stand Bond, tu comprends pas.
Pour les jeux vidéo, c'est le grand châtiment.
On a une vraie passion pour ça. Mais je sais pas, avec l'âge, ça va peut-être passer. Ça n'en sait rien du tout.
C'est sûr que quand j'aurai 50 balais, je me dirai... Ah, ça, c'était bon temps quand je m'amusais sur ma console.
Plongé très tôt dans un univers hyper ludique, cette génération s'attarde plus longtemps dans l'adolescence.
Alors, à mon avis, vers, je sais pas moi, dans les 30 ans, j'arrêterai. Et toi?
Bah, moi, c'est pareil.
On va pas draguer une fille avec sa console de jeu.
Aujourd'hui, l'adolescence se prolonge parfois jusqu'à 24 ans. Et les adolescents deviennent des adolescents, mi-ados, mi-adultes. La jeunesse s'approprie Internet comme nouveau moyen d'expression.
J'ai parlé avec quelqu'un pendant 2 mois sur Net.
Les homepages personnels, déjà très utilisés par les étudiants américains, sont une vraie révolution dans la manière de communiquer.
Puis on s'est rencontrés dans la vraie vie, si je veux dire.
En fait, c'est comme une vie parallèle.
Internet et les homepages deviennent le recueil d'humeurs et de manifestes politiques, donc de véritables entonnoirs à contre-culture. Nourrie aux jeux vidéo et à la calculatrice programmable, éduquée autrement et l'esprit ouvert sur le monde, cette génération n'est en fin de compte pas plus bizarre que la précédente.
Les jeux vidéo nous ont envahis et ils vont rester longtemps parmi nous. Et c'est bien parti pour que ce soit la même chose avec Internet.
Je devrais bientôt avoir un ordinateur, donc il devrait être équipé d'Internet.
Mais comme d'habitude, dès qu'il y a une nouvelle culture qui sépare deux générations, elle est immédiatement condamnée par les plus vieux. On peut pas en vouloir à ceux qui disent que le jeu vidéo, c'est violent, ça rend con et épileptique.
J'ai été énervé, j'ai eu carrément appuyé sur le bouton, mon poids s'est carrément arraché.
Ni à ceux qui pensent qu'Internet, c'est le repère des néo-nazis, de la scientologie et des pédophiles. Faut bien des arguments quand on se sent exclu et qu'on se voit vieillir. C'est la vie. On se retrouve le mois prochain dans un cyberculture consacré aux pays en voie de développement. Au sud, où en sont les technologies numériques? Allez les jeunes, bon jeu chez vous.
Et ma mère, elle a dit tu joues plus que 5 minutes et après j'étais arrivé à la fin.